repérage du bibliothécaire.
Bonjour, monsieur Benigno.
Bonjour, Marc. Comment vas-tu ? Un petit soleil et ce beau temps.
Mais écoute, super bien. Et puis, on n'a presque pas envie de lire, mais...
Mais quand même, il y a tellement de bonnes choses qu'on va essayer de susciter la curiosité et l'intérêt de nos auditeurs, parce qu'on a vraiment un bon numéro.
Ben alors, écoute, c'est bien. Alors, allons-y.
Allons-y. Alors oui, en effet, il y a l'embarras du choix dans ce numéro parce qu'il y a toute une brochette de bonnes choses dans tous les genres et dans tout genre. Mais en particulier, et curieusement, parce qu'on a... souvent beaucoup plus des polars et autres types de romans. Il y a dans les documentaires des choses extrêmement intéressantes et riches. Mais je veux quand même commencer par deux œuvres de fiction qui méritent le détour de par le sujet, de par l'origine. Et la première, c'est un roman policier. Jusque-là, rien de particulier, sauf que c'est un policier chinois. Alors, on connaît les policiers nordiques, on connaît les policiers même japonais parfois, et les policiers même en Amérique latine, il y en a certains, et africains aussi. Mais il y a en Chine un petit groupe d'écrivains qui font des polars ou des romans entre les polars, les thrillers, les suspenses et les romans fantastiques qui sont pas mal, dont celui-ci d'un auteur qui s'appelle Kai Jun, ou Jun Kai, selon comme tu veux placer les noms et les prénoms. Et les livres s'appellent La rivière de l'oubli. Et figure-toi qu'il a été considéré, bon, les critiques parfois ils font un peu trop, mais il est considéré comme les Stephen King chinois. Alors, les livres, en fait, c'est une... pourquoi il dit ça ? Parce que, bon, il y a des crimes. Alors, il y a un professeur chinois, tout bien comme il faut, qui, tout d'un coup, est accusé d'avoir tué une de ses élèves, une lycéenne, avec laquelle, bon, il a soi-disant une liaison. Et autre qu'intellectuel, et on l'accuse, on l'expulse, et il est retrouvé mort aussi, lui aussi. Et à ce moment-là, il y a un policier, il y a toujours un bon policier intègre, qui ne se laisse pas corrompre, Wang Hai, qui continue à enquêter, parce que lui, il trouve quelque chose de louche. Et puis à ce moment-là, il y a aussi un jeune qui se rappelle de ce qui s'est vraiment passé. Il y a une histoire de réincarnation. Donc des gens qui viennent de ce qu'on appelle justement en Chine justement la rivière de l'oubli, c'est le monde des morts, le monde de l'autre côté. Et quand qui traverse, qui aurait peut-être pu traverser, il y a une réincarnation de cette personne morte et qui rajoute du piment et du suspense et puis du mystère à l'histoire. Donc c'est une histoire qui est assez bien fichue et qui va probablement susciter quelques frissons et l'intérêt de nos auditrices et nos auditeurs. Donc la rivière de l'oubli. Avec le numéro 39499.
Dis-moi, si notre collègue Monique Cernels met la main là-dessus, elle va se spécialiser dans le polar chinois.
Ah ouais.
Elle va y perdre son latin, la pauvre.
Et son chinois aussi.
Et son chinois.
Et donc, mais oui, pour l'instant, on découvre maintenant les polars chinois, ça commence. On va peut-être en lire un ou deux autres de d'autres auteurs qui sont d'un grand intérêt, non seulement pour les côtés divertissement, mais aussi pour comprendre un petit peu la société chinoise, parce que ça, à travers cela, et on a un aperçu toujours, ou souvent en tout cas dans les polars, ça nous permet de voir un petit peu comment fonctionne la société. Ça, c'est important. Voilà pour notre premier, qui est un polar. Et notre deuxième, en fait, c'est un roman historique. Notre deuxième, c'est un roman historique qui nous vient des États-Unis, mais à l'origine, parce que l'auteur est un auteur, une femme, donc, d'origine syrienne. Et donc, justement, le livre s'appelle « La carte du souvenir et de l'espoir ». L'auteur, il s'appelle Jennifer, donc là, pour un nom anglophone, Jennifer Zeynab Yurkhadar. Donc voilà, ça, c'est le côté syrien. Et donc, le livre, en fait, se déroule à deux époques. Parce que le père de la protagoniste, là, il va mourir, et sa mère décide qu'ils vont rentrer en Syrie. Alors, on est en 2011. Il décide de rentrer en Syrie et quitter les États-Unis, New York, la vie occidentale. Et la fille, pour se souvenir de son père, il se rappelle que lui, il parlait souvent d'une jeune fille qu'au XIIe siècle, s'est travestie, s'est déguisée en homme pour pouvoir être l'apprenti ou celle qui suivait un célèbre cartographe du Moyen Âge et qui cartographiait toute la région, tous ces pays qui l'entouraient. Et ils vont en Syrie, la guerre qu'on connaît éclate, se lance, et là, évidemment, ils sont à Homs, et il y a la violence, et alors la famille de cette jeune fille est dans un dilemme. Et s'ils restent, on sait ce qui peut arriver, et sinon, ils doivent partir et s'enfuir, et vont devoir traverser les mêmes pays, les sept mêmes pays qui ont été cartographiés par ces cartographes célèbres du XIIe siècle dont son père lui parlait. Et donc, il y a un jeu entre le passé et le présent. Et le langage, en plus, est un langage très poétique, très beau. Et ça donne une autre manière, une autre approche de ce qui se passe au Moyen-Orient et en Syrie. C'est un très beau roman. La carte de souvenir et de l'espoir, avec le numéro 39482. Voilà pour celui-ci. Et puis... Avant de passer à deux livres qui sont déjà des documentaires, je vais parler brièvement, il faut juste mention au livre qui, bon, bien sûr, ce n'est pas la seule raison, mais qui mérite d'être mentionné, c'est, je pense, jusqu'à présent, le livre le plus long enregistré à la BSR, qui est le journal intégral de Virginia Woolf, cette célèbre écrivaine anglaise qui... s'est malheureusement suicidé en mettant des pierres dans sa veste, en train dans une rivière. Mais ce journal intégral, qui va depuis 1915 jusqu'à 1942, Virginia Woolf, elle le mène d'une manière assez rigoureuse. Et c'est très intéressant parce que ça permet non seulement de connaître ses états d'âme, sa vision de l'écriture, de la littérature et de toutes les personnalités qu'elle connaît. Justement, là, c'est notre de ses qualités, de ses intérêts et de son intérêt, c'est qu'elle rencontre tout ce qui vaut, tout ce qui a de l'intérêt du point de vue intellectuel, parfois même politique, dans l'Angleterre et aussi même ailleurs, dans cette époque-là. Et par contre, c'est un immense livre qui fait presque 130 heures. Et pour les amateurs courageux, il est disponible le numéro 39296.
J'ai vu, il fait 5 CD, je crois.
Oui, enfin, l'équivalent à peu près, bien encore bien tassé, mais oui, en tout cas, c'est pour ceux qui téléchargent, ça frôle les 130 heures de lecture. Donc, de quoi passer une petite partie du printemps à écouter, au moins qu'on se lance comme ça, non-stop.
On est plus long que Guérépé.
J'aurais l'impression. Il faut que je vérifie. Donc, parce qu'en plus, il y a les notes, etc. Donc, oui, c'est
ouais, chargé. D'accord.
Alors, mais cela dit, il y a deux livres qui sont documentaires qui pourront intéresser certainement nos auditeurs. Le premier, c'est un livre d'un trio, un célèbre trio, pas des chanteurs, mais des penseurs, ou en tout cas des personnes qui réfléchissent sur l'existence humaine, sur le bonheur, sur la simplicité. Et ce trio est composé d'un psychiatre, d'un philosophe et d'un moine. Et ces trois personnes, ces trois compères, sont Christophe André, Mathieu Ricard et notre Alexandre Jolien, national, qui se réunissent. Ils avaient déjà pondu un best-seller qui s'appelait « Trois amis en quête de sagesse ». Et là, ils reprennent l'ouvrage et puis ils se mettent ensemble à parler de la liberté. Alors, c'est quoi la liberté? En fait, c'est surtout savoir, hein, pour eux, évidemment, c'est beaucoup plus complexe, mais se libérer de tout ce qui nous empêche d'être heureux, ou en tout cas d'être à l'aise dans la vie. Et toutes les peurs, tous les préjugés, toutes les entraves psychiques et aussi parfois des faussement morales qui nous empêchent de vivre avec une certaine légèreté et essence. Donc ils discutent de tout cela pendant un certain nombre d'heures. Et puis c'est assez plaisant, je suis certain que ça va et plaire et intéresser en tout cas une partie de nos auditrices et nos auditeurs. Et c'est avec les numéros 39107. Ça, c'est un des premiers documentaires. Alors, il y a un certain nombre de documentaires très intéressants. Il y a un qui, je pense, qui va te plaire sur une équipe qui a des saboteurs qui a été créée par Churchill pour embêter un peu les nazis. Il y a un certain nombre de documentaires qui sont très plaisants et intéressants de tout point de vue, mais je ne vais pas m'étendre parce que sinon on lirait la liste entière. Mm-hmm. Mais je veux mentionner pour finir un livre d'un auteur israélien qui s'appelle Yuval Noah Harari, qui a écrit déjà deux livres précédemment, et puis celui-ci, le troisième, il s'appelle 21 leçons pour le 21e siècle. Alors là, bon, dans son premier livre qui s'appelle Sapiens, qui a été aussi un énorme succès des librairies et des ventes, il a analysé l'histoire de l'humanité. Il a une grande capacité de synthèse, de vulgarisation. Et ensuite, il a fait un deuxième bouquin qui s'appelle Homo Deus, où il imaginait comment serait l'avenir, de manière un petit peu effrayante. Et là, dans ces 21 leçons pour le 21e siècle, alors il analyse la situation actuelle. Qu'est-ce qui se passe et vers quoi on va et à quoi doit-on faire attention? Parce que justement, et cette histoire de l'intelligence artificielle, on est en train de se laisser guider par les algorithmes, par tout ce qui nous dit comment on doit être, et on est en train de perdre pied. Et voilà, il n'y a que voir, ça, tu sais, comme je m'énerve parfois quand je vois ces gens qui se laissent guider par leur téléphone.
Absolument. Ça, les zombies, comme tu les appelles.
Les zombies, sans penser à ce qui se passe, mais on est en train de donner nos informations personnelles, notre vie à des machines qui vont après nous dire comment nous, on doit être, comment on doit vivre. Et tout cela, il y a un façonnage de la société, de la vie qui est assez dangereux si on ne prend pas conscience et si on ne fait pas un petit peu d'efforts intellectuels et des volontés pour reprendre le contrôle en tant qu'humain. Et donc ce livre, pour cela, est assez pertinent. 21 leçons pour le 21e siècle avec les numéros 39494. Et les restes, je laisse nos auditrices et nos auditeurs les découvrir.
Et qu'avons-nous en production?
En production, on a aussi toujours un petit chantier surprenant et délicieux parfois, mais parmi ces livres-là, qui sont soit en production, soit en lecture, et on a par exemple un livre qui traite de nos amis russes, qui sont donc de crin là en particulier, mais d'une manière un petit peu originale. Le livre s'appelle « Une histoire érotique du Kremlin ». Bon, il faut dire que maintenant, on met érotique partout pour vendre les livres. Ouais, bientôt, on fera une histoire érotique du cancer, un truc comme ça. Mais pour l'instant, on reste à ces livres. Et qui est, je dirais, presque malgré son titre, très intéressant, d'un auteur qui s'appelle Magali Delalloy. Et donc, là, on parle de ces femmes qui, en Russie, et à l'Union soviétique, bien entendu, dans la période soviétique, et ont eu un rôle, que ce soit un rôle prépondérant ou un rôle parfois proche de la victime ou parfois un rôle de la stimulation ou de l'accompagnement politique, dont par exemple la femme de Gorbatchev, Raïsa Gorbatcheva, qui était une femme quand même assez influente, et on parle aussi de Lénine et ses rapports avec les femmes, et des femmes d'Ivan le Terrible. On parle aussi d'autres femmes qui ont eu des rapports un peu spéciaux avec la camaraderie amoureuse. Et on parle aussi de Staline, bien sûr, et de son rapport un petit peu trouble avec les femmes. Donc là, il y a des personnages de tout genre, personnages féminins, bien sûr, et on voit tout ce qui se passe autour du pouvoir en Russie, et depuis les temps anciens jusqu'à l'époque contemporaine, et je suis sûr que ça va plaire à un certain nombre de nos auditeurs et nos auditrices. Donc, une histoire érotique du Kremlin qui sera très bientôt disponible.
Il faut avoir un manuel d'histoire à côté, ou bien ça...
Il y a des références, donc on arrive à se repérer, bien sûr, non, c'est assez accessible. Mais ça n'empêche, bien sûr, d'écouter une histoire pas érotique du Kremlin à côté. Mais non, il sera disponible d'ici très bientôt. Et puis un autre livre qui est en lecture, lui, qui sera, je pense, lu assez vite... C'est un livre d'une Française, Hélène Jousse, et le livre, c'est un roman biographique qui s'appelle « Les mains de Louis Braille ». Bon, Braille, vraiment, tout le monde connaît, et même ceux qui n'utilisent pas l'écriture Braille savent que c'est Louis Braille qui l'a inventé. Mais ce livre est écrit d'une manière assez agréable, accessible et bien écrite, et parle de l'histoire. Comment est-ce que Louis Braille est devenu aveugle, et comment est-ce qu'il s'en est sorti, quelle était la situation des enfants aveugles à cette époque. On parlait déjà en 19e, et puis même au début du 20e. Et puis, comment on faisait avant que le braille a été inventé, etc. Donc il y a toute une série d'histoires à travers l'histoire. Donc c'est un roman, c'est vraiment un roman. Et on apprendra aussi les premiers livres, quel est le premier livre à être traduit en braille, par exemple, etc. Et tout sous la vie et l'œuvre de Louis Braille en forme de roman. Les mains de Louis Braille bientôt disponibles. Mais évidemment, il y en a plein d'autres livres qui sont en production.
Et pour l'avenir, ta table est toujours aussi bien garnie.
C'est une table bien garnie. On pourrait dire que presque c'est un buffet. On pourrait dire canadien si c'était pas plutôt international, mais bien savoureux. Et puis parmi ces livres qui sont prêts à être lus, puis selon l'intérêt, la curiosité, la bienveillance de nos lecteurs et nos lectrices, il y en a deux dont je vais parler brièvement. Un, c'est une jeune auteure américaine qui s'appelle Jasmine Ward, mais qui a eu déjà pour deux fois le prix national de littérature aux États-Unis, et ce qui est rare, deux fois le même prix, surtout une femme d'ailleurs, aux États-Unis. Le livre en question s'appelle « Le chant des revenants ». Le chant des revenants, pourquoi ? Parce qu'il y a des morts qui parlent aussi dans le livre. Mais c'est un livre extrêmement bien écrit qui se déroule au Sud. Des États-Unis, donc dans ces suds un peu profonds qu'on n'imagine pas, c'est vraiment un autre pays, c'est pas le New York des geeks, etc., c'est vraiment l'Amérique profonde où il y a encore du racisme, où il y a encore... on est dans une autre dimension. Et là, il y a donc des personnages, le récit lui-même, il est conduit par trois personnages qui parlent. Il y a Jojo, c'est un gamin qui est métisse, donc qui est le fils d'une jeune fille. Et Léona, qui est noire, afro-américaine, et d'un blanc du coin, dont le père est un sacré raciste, mais pas lui. Et Léona elle-même, qui parle, c'est cette femme dont les parents sont des gens très droits, mais elle a un petit peu tombée dans la drogue. Bon, il y a toute une histoire là-dessus. Et puis, elle est tombée amoureuse de ces blancs. Et puis, il y a Richie. Alors, Richie, qui est un personnage un peu spécial, parce que Richie, il est mort. C'est un petit gamin qui avait été mis en prison dans les années 50, dans ces suds où c'était effrayant. Et les trois personnages, ils sont... chacun son discours et qui nous montre la réalité, mais d'une manière tellement vraie, tellement authentique et qui est très touchant et qui nous permet de voir un peu ce qui se passe au sud des États-Unis, ce qui s'est passé, ce qui se passe toujours. Et c'est vraiment pour moi un des coups de cœur de la littérature, des fictions de cette rentrée. Et donc ça s'appelle « Le chant des revenants ». Et puis, le deuxième, c'est un tout petit livre qui n'est pas du tout nouveau, mais qui a été édité, enfin, en tout cas en français, on ne les connaissait pas tellement. Je ne sais pas si tu connais Errol Flynn, tu as parlé d'Errol Flynn,
sûr,
cet acteur américain célèbre, un peu gaspillé, un peu aventurier. Mais Errol Flynn a taquiné la plume de temps en temps, et en plus, comme il était un sacré aventurier, il s'est faufilé dans des endroits où on ne l'attendait pas. Et il se trouve qu'Errol Flynn, dès que la révolution cubaine a commencé, même avant qu'il triomphe, il s'est tombé amoureux de ces processus. Et il a décidé de rencontrer Fidel Castro, même avant qu'il ne triomphe. Donc il était dans la montagne, tout ça. Errol Flynn dit, je vais à La Havane. Bon, il connaissait déjà Cuba. Il allait souvent boire un petit peu, se soigner au rhum. Et il est parti. Et il a profité de sa notoriété, tout ça, pour se faufiler. Et puis, il allait rencontrer Castro au milieu des balles et des histoires. Et ça a donné un truc complètement délirant parce qu'il est assez drôle. Et il essaye de se montrer comme les gars frivoles, un peu fous, mais il n'était pas si superficiel que ça. De temps en temps, il fait des réflexions assez fines, mais tout en rigolant, avec de l'humour et même de l'autodérision parfois. Et c'est assez plaisant. C'est vraiment réjouissif de lire ce petit livre qui s'appelle. Alors, il y a deux histoires, il y a deux chroniques. Il y a le premier qui s'appelle Moi et Castro. Donc, ça commence, c'est pas Castro et moi, mais Moi et Castro. Et suivi de ce qui m'était vraiment arrivé en Espagne, parce qu'il est allé à la guerre d'Espagne aussi à l'époque de. Alors, là, c'est un sacré personnage. Il faut savoir que Moi et Castro, alors, il a écrit un sort de reportage pour un grand journal américain. Et puis, Errol Flynn, donc, il rencontrait Fidel Castro en 1958 et il est mort en 59. Donc, au moment de la révolution cubaine, était en train de triompher, il est mort. Donc, il a vraiment rencontré. C'est une des dernières choses qu'il a fait des notables, c'est cette rencontre avec Fidel Castro. Donc là, c'est un petit livre que je pense va original, pas très connu, et qui va, je pense, plaire et faire rire par certains moments les auditeurs et les lecteurs ou la lectrice qui le lira. Donc, Errol Flynn, Moi et Castro, et ce qui m'est réellement arrivé en Espagne.
Alors, avis aux amateurs.
Et voilà, jusqu'au mois prochain avec des nouvelles rencontres et découvertes.
Merci.